Bonjour, bonsoir au microphone Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 10 mai 2024. Au sommaire cette semaine, on va parler avec le chef de mission Bruni Surin, qui va accompagner les athlètes canadiens aux Jeux olympiques de Paris. Récemment, il a travaillé sur un brassard connecté pour les athlètes, alors il va nous en parler. On va parler avec la grande patronne des programmes chez Bell Media, alors que le groupe lance 10 nouvelles chaînes télé pour les télébranchés. Et on va également parler d'un événement qui va avoir lieu à la fin du mois à Montréal, le sommet IA et création. On va aller rejoindre évidemment à Paris Jérôme Colombin pour parler d'actualité numérique. Et puis en Suisse, on va retrouver l'ami Thierry Weber qui passe nous saluer cette semaine avec son commentaire sur un gadget électronique qui a été cherché son cœur et qu'il aime bien. De toute façon, il va nous en parler un petit peu plus tard. Stéphane Ricoul nous parle d'esprit critique. Et puis Jean-François Poulin, avec son invité, nous parlera de design décloisonné. Voilà pour le programme de Mon Carnet cette semaine. Et puis, je veux vous avertir, la semaine prochaine, préparez-vous, je vous amène avec moi à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs, où va se tenir pendant 4 jours le Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer. Du 16 au 19 mai prochain, je vais proposer à tous les soirs 30 minutes en direct de là pour vous faire vivre l'événement et vous présenter les principaux participants, ceux qui ont marqué chaque journée de ce festival. Et pendant qu'on y est, la semaine suivante, pour l'émission du 24 mai, elle vous parviendra de Paris, où se tient cette semaine-là l'événement Vivatech, le CES français, si vous voulez. Mais bon, on a le temps de s'en reparler de ça. Pour le moment, juste avant de passer au contenu de cette édition, vous me permettez de saluer, comme à l'habitude, 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Jules Mallette, Gilles Sénécal, Jacques Cardinal, Christian Nouet-Guérin et Jeff Dallaire. À vous 5, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. Merci d'être là et puis à tous, je vous souhaite une excellente écoute. On commence l'émission de cette semaine avec une petite visite à Paris pour retrouver mon collègue Jérôme Colombin.
Et on traverse l'Atlantique tout de suite pour retrouver à Montréal mon camarade Bruno Guglielminetti. Salut Bruno, tu es là?
Bonjour.
Merci de m'ouvrir ta porte.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir.
Ah, écoute, c'est un plaisir également, partagé. Quel temps il fait chez toi?
Aujourd'hui, il fait soleil, mais c'est plus frais que la normale. Mais bon, ça n'arrive pas, au moins il neige pas.
On est au mois de mai quand même, il y a de la neige encore chez vous?
Je m'excuse, mais hier, même date, mais il y a 4 ans, il neigeait.
Ouais. Chez nous, il y a du soleil. Bon, tu vas bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'était sur le plateau de François Sorel. On s'est vu beaucoup récemment, c'est vrai.
Ouais. D'ailleurs, il y a des gens qui se posent des questions, puis je leur confirme que je suis heureux avec mon amoureuse, mais que Jérôme, c'est un très bon ami. Alors,
Et cette semaine, Bruno, dans ce débrief, il y a pas mal de petits sujets. Je sais pas ce que tu sais, ici en France, c'est la période des ponts. Donc voilà, tout le monde a décroché. C'est pas encore vraiment des vacances, mais c'est les ponts du mois de mai.
C'est un avant-goût.
Voilà, exactement. Et c'est une institution, donc il y a beaucoup de gens qui font qui arrivent en s'organisant à avoir pas mal de temps libre. Et comme il fait beau, mais en plus. Voilà, tout le monde va se promener. Donc moi, je me suis dit qu'il fallait parler de choses un peu sympathiques et légères. Parce qu'on aurait pu parler des annonces Apple, par exemple.
Ben oui, parce que quand même, c'est intéressant. Méga annonce. Si on cite Tim Cook, c'est l'annonce la plus importante depuis la sortie du iPad. Je suis pas vraiment d'accord avec lui. Mais donc, grosse annonce cette semaine pour les amateurs de iPad. Comment tu vois ça, toi, de ton côté? Il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans?
Ouais, bon, on peut en dire un mot rapidement. Effectivement, l'iPad, ça reste quand même un marché de niche, mais pour les gens qui utilisent les iPads, moi j'en ai autour de moi, qui sont très accros à l'iPad, bah, c'est important de savoir qu'il y a des nouveaux modèles, parce que les précédents commençaient à dater un peu. Après, moi je suis pas un aficionados de l'iPad, parce que je trouve qu'il fait beaucoup moins de choses qu'un ordinateur. iPadOS est vraiment pas pratique, c'est pas un système d'exploitation ou d'ordinateur. Un truc tout bête, il y a même des sites web, et notamment de l'administration française, qui passent pas bien sur iPad. Et ça crée vraiment des problèmes. Mais sinon, là, c'est quand même des belles machines qu'ils ont annoncées. Donc,
ouais. Mais tu vois, moi, seulement le modèle vraiment de base, là, le iPad mini, depuis que c'est sorti, au début, en 2010, j'avais le gros iPad, mais du moment qu'ils ont sorti l'iPad mini, j'ai toujours utilisé l'iPad mini. Ça arrivait à l'occasion que je rachète une édition du iPad, grand format. Mais sinon, l'iPad mini, pour moi, c'est un bloc-notes. C'est un... Quand je fais des conférences, j'ai toujours la conférence là-dessus avec les points que je veux aborder.
C'est exactement les mêmes. C'est le moment où j'utilise l'iPad. C'est quand je fais une conférence, que j'anime des débats, des choses comme ça. Mais c'est quasiment le seul moment. Ou quand je fais des émissions en vidéo, en télé, que j'anime. Ouais. Là aussi, c'est pratique.
Bah, tu vois, alors ça a quand même son intérêt. Mais c'est sûr que au prix qu'ils sont en train de faire pour, je pense, au iPad Pro, là, c'est le prix d'un ordinateur. On s'entend que on essaie d'aller rejoindre le marché natif là, des produits iPad, des produits Apple à l'époque, c'est-à-dire les créatifs, ceux qui font du dessin, ceux qui font de la musique, ceux qui ont besoin d'un outil de création mobile qui prend pas trop de place. Ça va être ces gens-là, parce que sinon, monsieur, madame, tout le monde, l'iPad de l'an dernier ou celui d'avant fonctionne très bien. Hein.
C'est vrai, ils ont ça une durée de vie à la fois hardware et même logiciel. On n'a pas besoin d'en changer tout le temps de l'iPad.
Heureusement d'ailleurs, contrairement au Mac où il faut se taper une nouvelle édition de temps en temps, sinon la suite et les logiciels fonctionnent plus. Hey, mais parlant de trucs qui fonctionnent avec le temps, t'as vu ça toi, Nokia la compagnie qui a acheté la licence Nokia est en train de nous ramener le 3210.
Mais c'est très bien qu'on parle de ça parce qu'effectivement, voilà, comme je te le disais en période de pont, cette actualité un peu légère intéressera certainement beaucoup de gens. Le 3210, c'était pour situer, hein, c'était vraiment l'un de ces téléphones. Il avait 25 ans, le 3210. C'était les petits téléphones de poche de Nokia, iconiques, en fait.
C'était populaire à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais parce que c'était le premier modèle qui avait pas une antenne externe. Tout était à l'intérieur. Et ça a vraiment révolutionné le marché. Moi, je me souviens, j'en ai eu deux modèles différents parce que j'avais essayé de montrer comment c'était solide. Mais finalement, ça fait le marteau, mais à un moment donné, ça peut craquer.
Mais il faut pas essayer de planter des clous avec les téléphones.
J'ai essayé. Mais ça a fonctionné pour le premier, mais le deuxième, c'est le téléphone qui a cédé. Mais quand même, c'est très robuste et ça a fait de son temps, ça.
Ouais. Après, bon, la démarche est intéressante. C'est un téléphone qui est vendu hyper pas cher, hein, 80€. C'est vraiment de l'entrée de gamme. C'est pas un smartphone, c'est ça le truc. Et en fait, cette marque HMD, donc, essaye de se faire une place, hein, au milieu des géants, Apple, Samsung, etc. Et ils essayent de surfer. On le voit, ils sont forts, notamment en Inde, en Chine, mais ils essayent aussi. Et notamment en Europe, de surfer sur le côté un peu décrochons des écrans, coupons des réseaux sociaux, et notamment pour les enfants, on en parlait la semaine dernière. Et donc, revenir à des téléphones basiques, hein, ce qu'on appelle les dumb phones, les téléphones idiots, en fait.
Ouais. Donc, mais je ne sais pas si tu as vu ça passer de ton côté, mais il y a quelques mois de ça, ils ont fait un sondage, une étude auprès de la génération Z, et il y avait un fort pourcentage, je ne veux pas que c'était 50%, mais il y avait un fort pourcentage de gens qui, justement, se disaient, si je pouvais avoir un téléphone performant, mais dumb phone, qui soit pas un téléphone intelligent, je le prendrais. Parce que pour revenir essentiellement à je fais des appels, j'envoie des textos au besoin, mais bonsoir les textos, hein, faut que tu t'y mettes là parce que
avec le clavier, avec le T9, tu sais, où t'as trois lettres par touche, c'est super. Non mais moi aussi j'ai entendu
t'as le temps de réfléchir à ce que t'écris.
Ah oui, effectivement. Ouais. Puis t'as pas de commande vocale, hein. Tu non, peux non. pas envoyer de, même de voice ou de choses comme ça. Ouais, moi je veux bien.
La nouvelle version, on va l'avoir.
Alors je sais pas. C'est bon, il est 4G, ça c'est déjà bien, mais je crois pas qu'il soit quand même très sophistiqué. Mais moi j'ai déjà entendu aussi ce type de discours, notamment de la part de vraiment de jeunes gens et de jeunes filles. Mais j'ai aussi constaté que ça durait pas très longtemps, hein, ce genre de choses, parce que quand ils sont plus joignables par WhatsApp ou Messenger ou autre, ok, ils ont tourné la page Facebook bien sûr, TikTok, c'est bien, ça repose. Mais les relations sociales, elles passent aussi par les groupes, par WhatsApp notamment. Donc, ils y reviennent à un moment ou à un autre. Hein.
Non, puis, bon, voilà. Soyons honnêtes, si nous, on est intéressés par cet appareil-là, c'est pour se remettre à jouer à Snake.
Exactement, bien sûr. Ouais. Ils avaient déjà réintroduit... Oui, le petit serpent avec des morceaux carrés, avec des pixels carrés. Ouais. Exactement. Ah ouais, ça c'était génial. On a passé des heures là-dessus. Bon, bref, voilà, le 3210, après avoir... Alors, il nous joue régulièrement la chanson du Revival, hein, HMD, puisqu'ils avaient déjà ressorti... Ouais. Voilà, le Vintage, ils avaient sorti le 3310, ils avaient ressorti le 8810, je me souviens, je l'avais découvert au Mobile World Congress de Barcelone, cette espèce de téléphone banane jaune qui était assez joli d'ailleurs. Voilà. Bah écoute, ça peut intéresser des gens. Bruno, moi il y a un autre sujet qui m'a fait tiquer, qui m'a intéressé cette semaine. Je voulais t'en dire un mot parce que je sais pas si ce que tu en penses et si c'est pareil de ton côté de l'Atlantique. Il y avait un article intéressant dans le Figaro sur des Français qui adoptent de plus en plus ChatGPT pour leur vie quotidienne.
C'est-à-dire, ils font quoi avec ça?
Eh ben écoute, ils font des trucs. Ils font principalement écrire des messages. Alors, il y a ceux qui écrivent des lettres de rupture, par exemple. Ils utilisent ChatGPT pour ça. Ou des lettres d'amour aussi. Et ils trouvent que c'est vachement pratique, en fait. Parce que ce que fait ChatGPT, hein, il fait tout le travail. Et puis toi, si t'es pas content, tu repasses derrière et tu affines. Et il y a plein de témoignages comme ça de gens qui disent « Oui, alors moi, il m'aide à faire le planning de la semaine. » Ou bien « Il m'a fait des lettres d'amour pour ma femme avec des trucs qui étaient assez rigolos. » Et en général, il constate que ce qu'on sait déjà, c'est que la première version n'est jamais bonne. Mm-hmm. Elle est très lourde, elle est pas très drôle, mais si tu affines si tu affines ton prompt, en fait, tu arrives à des résultats intéressants.
Ouais, ça revient à dire, c'est l'art de la requête, hein. Faut savoir ce qu'on veut, puis à force de pouvoir demander, on arrive à quelque chose de très près. Mais toi, est-ce que tu utilises ça pour dans ton quotidien qui est pas professionnel?
Dans le quotidien non professionnel, ça m'est arrivé, oui. Par exemple, des lettres de réclamation, des choses comme ça, des trucs, des problèmes de paiement frauduleux. Enfin, ça m'arrive pas tous les jours, heureusement, mais
j'espère pour toi, hein.
Des choses comme ça, c'est pas mal parce que tu lui donnes les éléments en vrac. Et lui, il organise tout et il raconte tout. Mais on a vraiment intérêt, il faut vraiment relire parce que parfois, tu peux dire le contraire de ce que tu voulais dire.
Surtout pour des trucs officiels comme ça, quand c'est des réclamations.
Bien sûr. Mais je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir que cet outil est adopté des gens comme toi et moi, enfin pour des raisons non professionnelles justement. Et ça, c'est quand même la marque d'un phénomène super important et qui en est sans doute qu'au début.
Oui, puis c'est de voir comment les gens maintenant l'utilisent. Hier, j'avais une réunion avec des gens autour de la table et rapidement avant de commencer la réunion officielle, quelqu'un qui a mentionné ChatGPT et là tout le monde arrive avec leur histoire de comment ils l'utilisent au travail, dans la vie privée. Ouais, mais c'est intéressant de voir que ça c'est en train d'entrer, de trouver sa place dans la vie de tous les jours. OpenAI a réussi un bon coup en se positionnant ça dans les premiers.
Ben on va voir comment ils vont évoluer, hein, parce que ils étaient les premiers, donc ils peuvent vraiment capitaliser là-dessus.
Ils sont le Google de l'intelligence artificielle générative.
Tout à fait. Et ce qui fait que les autres ont du mal à faire leur place, hein. Claude, qui est pourtant très très bien, n'est pas très connu, pas très utilisé, etc. Et je crois que OpenAI, tu me disais, a de grandes ambitions. Ils vont même s'ouvrir à des contenus pour adultes, c'est ça?
Ben, ils sont en train de réfléchir. C'est une nouvelle que j'ai vue passer rapidement cette semaine. Ils sont en train de réfléchir à la possibilité d'ouvrir leur service à la production de produits pour adultes, disons-le comme ça. Et donc, autant dans le texte que dans l'imagerie. Toutefois, il est clair que dans cette réflexion-là aussi, ils sont conscients qu'avec les dérives de l'intelligence artificielle et donc tout ce qui serait d'utilisation avec non-consentement des gens qui seraient à l'écran, bien évidemment, ça serait pas possible. Tout de même, s'ils décident d'aller taper là-dedans, étant déjà la référence dans le domaine, méchante niche, et t'imagines un peu le capital financier qu'ils pourraient aller chercher là-dedans.
C'est-à-dire que tu pourras écrire tes propres histoires érotiques ou générer tes propres images porno.
Exactement. Exactement. Wow. Et déjà, c'est fait. Et d'ailleurs, on parle de ça. Cette semaine, j'entendais à la radio de Radio-Canada un reportage sur dans le domaine de la pédopornographie. Là, c'est le casse-tête maintenant des enquêteurs qui travaillent sur les cas parce qu'ils arrivent difficilement maintenant. C'est devenu tellement pointu au niveau de la pédopornographie qu'ils ont vraiment de la difficulté à trouver entre
la victime. À savoir si ce sont des vraies images ou pas.
Ouais, exactement. C'est ça. Donc, c'est pour te montrer comment on est rendu loin là, dans ce domaine-là. Et c'est ça. Alors, si OpenAI décide, évidemment pas dans la pédopornographie, mais si OpenAI décide d'aller dans le divertissement pour adultes, appelons ça comme ça, ça va. Et puis, ça sera de voir aussi, ça sera quoi la répercussion. Hein, parce que là, tout est beau, tout est gentil, ils ont une belle image, mais s'ils décident d'aller là-dedans, ça sera peut-être rentable financièrement. Mais au prix de l'image publique, il va peut-être en arracher un peu. Alors,
tout à fait.
Ouais. Ça serait intéressant de voir. D'ici 6 mois, on sera sûrement au courant de la décision.
OpenAI sera à Vivatech, où tu vas venir également. Et ils font une conférence, donc on verra s'ils abordent cette question-là.
Alors, tu poseras sûrement la question, je te connais.
Ouais.
Dis donc, Jérôme, tu parles de quoi cette semaine dans mon numérique?
Alors, cette semaine dans Monde Numérique, eh bien, juste après notre entretien, je vais parler d'une une entreprise qui aide les entreprises à réduire leur impact carbone et surtout à évaluer l'impact carbone de leur système informatique et numérique. Parce que le numérique, c'est pas forcément très bon pour la planète, on le sait. Mais c'est très difficile d'évaluer l'impact exact du parc informatique, de la consommation réseau, data center, etc. C'est une start-up française qui s'appelle Frugger, qui est incubée, qui a notamment gagné un concours organisé par EDF récemment et qui sera à Vivatech. Et puis, je prends également du recul avec un entrepreneur qui vient de signer un livre sur la technologie au sens large et qui s'interroge un peu sur les bienfaits, mais aussi tous les mauvais côtés de la tech. Ça s'appelle Tech ou Toc. Et on parle notamment de l'intelligence artificielle, les risques de l'IA, qui est un sujet qu'on connaît bien, toi et moi, et qui parle notamment aussi des réseaux sociaux et de TikTok. Et lui, il dit carrément qu'il faut interdire TikTok. Mais il me raconte aussi comment il a appris à lire à sa fille grâce à ChatGPT. C'est amusant, ça.
Quand même. Ouais. Wow. J'ai hâte d'entendre ça.
Super.
J'invite des auditeurs de mon carnet à aller écouter mon numérique pour. Puis particulièrement cette entrevue avec l'auteur. Moi, j'ai l'impression que tu vas faire lever le poil des gens qui nous écoutent.
Bon, Bruno, je te dis. Alors, j'allais te dire à la semaine prochaine, mais je crois que tu es très pris la semaine prochaine. Tu as un colloque sur le journalisme, c'est ça?
Ah non, pas un colloque, un festival, monsieur.
Un festival.
Ouais, le Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer. Ça se tient en Gaspésie. Alors, si vous avez déjà vu une image du Rocher Percé, qui est très beau, vous pouvez y aller autour en bateau. Mais moi, ça sera pas pour aller faire un tour du côté du Rocher. C'est une grande rencontre avec une centaine de journalistes et c'est organisé par la communauté. Et donc, il y a du monsieur, madame, tout le monde au pied carré. Il y a des journalistes qui vont débattre de questions qui intéressent le public. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, je vais là parce que je vais produire 4 émissions spéciales de mon carnet en direct, donc un truc quotidien tous les jours, pour marquer le coup puis faire entendre aux gens qui ne sont pas sur Carleton-sur-Mer, les pauvres, ce qui se passe comme discussion.
Bon, écoute, on verra. Si tu as 5 minutes pour moi pour qu'on se fasse un petit débrief transatlantique, ce sera avec plaisir. Et puis sinon, on se verra la semaine suivante à Vivatech.
N'aie pas peur, on va se trouver un petit moment. Et sinon, à Vivatech en vrai. Salut.
Salut, Bruno.
Mon premier sujet va sûrement intéresser les adeptes de la course et je sais qu'il y en a quelques-uns à l'écoute en ce moment. D'ailleurs, si c'est votre cas, ben, je vous souhaite une bonne course. C'est le fabricant français Lixan, en compagnie de son partenaire B1, qui va bientôt lancer un nouveau brassard connecté pour les coureurs. Et pour tester le produit, ils ont été chercher nul autre que Bruny Surin, le sprinteur et champion olympique canadien, pour évaluer le produit et leur faire des recommandations. À l'approche des Jeux olympiques de Paris, je me suis dit que ce serait un excellent prétexte pour l'inviter, puisque lui va être chef de mission de la délégation canadienne, pour parler de cette innovation sur laquelle il a collaboré, mais aussi pour en profiter pour prendre de ses nouvelles à moins de 100 jours des Jeux. Bonjour Bruny Surin.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. En janvier dernier au CES, quand on regardait dans le e-health ou en tout cas le e-sport, il y avait un produit, un accessoire qui a attiré mon attention. Puis vous, vous l'avez essayé. Je parle d'un brassard. Je le présentais tout à l'heure là, dans la présentation. Un brassard qui est produit par B1. Qu'est-ce que ça représente, un brassard connecté pour un coureur?
Ben, ça représente que c'est durant notre entraînement ou même une compétition, ça va nous donner plein de données qui va permettre justement à la personne ou à son entraîneur, disons, de faire des ajustements par rapport à l'entraînement. Aujourd'hui, la technologie dans tous les domaines, ça a beaucoup évolué et même au niveau de l'entraînement aussi, les compétitions, on voit les chaussures, les pistes d'athlétisme. Donc, avec un brassard comme ça, si je fais un parallèle, même moi, comme sprinter, dans le temps, je faisais des entraînements aussi, on appelle d'endurance vitesse. Mm-hmm. Il m'est arrivé plusieurs fois aussi que, dépendamment de la chaleur, des entraînements qu'on va faire, puis ça peut créer des crampes. Donc, dans ce temps-là, j'avais pas de données. Donc, avec un instrument comme ça aujourd'hui, pendant même l'entraînement, mon entraîneur pouvait voir, ben écoute, au niveau de ma transpiration, ma sudation, peut-être qu'il y a un risque de peut-être même de overtraining, de trop d'entraînement ou de doser qu'est-ce que je vais boire dans le fond, que ce soit de l'eau, que ce soit comme genre un drink comme du tout le monde connaît du Gatorade pour pas le nommer, exemple comme ça. Donc c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Donc ça fait plusieurs mois qu'on a commencé à travailler avec le produit, on l'a amélioré. J'ai fait des tests à l'entraînement comme data. La compagnie B1 ont tous ces data là et avec ma fondation même au mois de septembre dernier, où est-ce que j'avais 6 coureurs qui ont participé à un relais à Granby, que ces athlètes là ont c'est des athlètes, monsieur, madame, tout le monde. Et il y en avait deux aussi qui étaient plus avancés. Donc, on a pu voir leur courbe de sudation. Donc, tout ça, on a mis ça dans la base de données pour améliorer le produit. Puis là, aujourd'hui, je peux dire que le produit, je suis vraiment satisfait. Je l'endosse à 100%. Ouais.
Il y a votre saut. Mais je suis curieux.
Il y a votre saut, exactement.
La plupart des coureurs maintenant qui veulent justement avoir ce type d'informations-là, ils portent une montre et ça les satisfait. Qu'est-ce que ça vient rajouter de plus, le brassard de B1?
Ben, les montres, sans vouloir commencer à parler contre les autres et tout ça de compétition, bon, c'est sûr que les montres, tu vas avoir, par exemple, le nombre de monsieur, madame, tout le monde peut avoir le nombre de pas qu'il va courir, tu vas courir, tu peux avoir le nombre de distances que tu vas faire, tu peux avoir le nombre de calories, mais il n'y a pas un présentement qui va détecter ton niveau d'hydratation et de te permettre live de dire, oups, peut-être quelque chose qui va pas, je suis pas assez hydraté, je vais prendre de l'eau ou je vais prendre mon Gatorade ou un autre produit, tout ça. Il y a aucune autre compagnie, à ma connaissance, qui a ça présentement aujourd'hui. On est comme, je pourrais dire, un pas en avance.
Pour la course, c'est toute la différence. Ouais. Si vous me permettez de faire ce jeu de mots.
Ben oui, pourquoi pas.
Mais le brassard, dans le fond, ce qu'il ajoute, contrairement, par exemple, à la montre qui, elle, va vous donner un peu d'informations, mais une fois que c'est passé, là, c'est presque du prédictif.
Ben, c'est du prédictif. J'aime bien le mot. Puis c'est vraiment ça. C'est ça. Live, ça te dit, ben écoute, on va prendre l'exemple, tu vas frapper un mur. Mais avant de frapper le mur, ben l'appareil va te dire, ben écoute, tu vas frapper un mur. Fait que c'est à toi maintenant de dire, ben avant que je frappe le mur, je vais m'hydrater, je vais diminuer mon entraînement, qu'importe. L'entraîneur ou la personne va faire les ajustements justement pour pas frapper ce mur-là. Moi, j'en ai frappé des murs dans le temps, les crampes, les blessures et tout ça. Donc ça, c'est un indicatif qui va vous dire, ben écoute, par rapport à ton entraînement, ben dose-les un peu pour pas justement frapper ce mur-là. C'est vraiment la prévention. C'est vraiment ça.
Pour vous, là, justement, puis vous le disiez, vous avez connu l'avant et l'après d'avoir comme ça des accessoires qui vous permettent d'avoir en temps réel là, le ressentiment de votre corps. Qu'est-ce que ça change comme sprinteur, comme athlète?
Au niveau plan d'entraînement, moi j'ai toujours dit, j'ai un respect incroyable pour les entraîneurs, c'est que l'entraîneur ou la personne qui va faire ton entraînement, dépendamment de la compétition que tu vas vouloir faire, dépendamment de l'objectif que tu vas avoir, prenons l'exemple maintenant, il va avoir Paris, les Jeux olympiques présentement, mais le travail de l'entraîneur, justement on parlait de prévision tantôt, mais c'est là de se dire, exemple, le 3 août à 19h, mais c'est là que tu dois être au sommet de ta forme. Donc, présentement, les entraîneurs vont faire tous les ajustements nécessaires pour que l'athlète arrive le 3 août à 19h au sommet de sa forme. Donc, avec un appareil comme ça, c'est tout dans le développement. Pour dire, ben écoute, voici ce qui arrive, la prévision, ben écoute, je sais que le 3 août, bang, c'est là que je vais avoir ma performance. Donc, on essaie toujours d'avoir ces données-là d'avance. Comme les données, je disais, ça c'est un autre domaine, les pistes d'athlétisme à Paris, donc encore là, ça va être encore avancé. Donc, pour tous les athlètes, c'est pour ça que je dis tout maintenant avance en termes de technologie, la piste d'athlétisme, ce qui est Mondo, pour pas le nommer, que j'ai travaillé avec eux aussi, ben, ils s'améliorent d'année en année, là. Puis eux, qu'est-ce qu'ils disent à Paris? Les athlètes, on va voir des records. C'est sûr et certain, on va voir des records du monde. Comme les souliers, Nike, les Adidas de ce monde, ils s'améliorent tous. Donc, avoir un appareil comme ça pour mettre en plus, pour aider les athlètes, écoute, c'est fou, là, on va avoir des records incroyables. Pour faire du chemin là-dessus, quand je parle d'amélioration, que ce soit technologique, les techniques d'entraînement et tout ça, quand j'ai pris ma retraite en 2002, j'étais le deuxième rapide de tous les temps avec un temps de 9,84 et moi je voyais qu'est-ce qui s'en venait. J'ai dit ouvertement, la nouvelle génération vont courir, les gars vont courir 9,6. Tout le monde disait que j'étais fou parce que moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que la prévision, je le voyais, tout ce qui se passait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive maintenant, le record du monde Usain Bolt, 9,58. Exactement. C'est pour ça que moi je dis tout ça, puis moi avec B1 d'être, je veux dire, l'ambassadeur de cette technologie-là, avec l'incense et tout. Et écoute, je suis dans un bateau vraiment, vraiment incroyable. Je suis vraiment heureux de faire partie de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir bénéficier de ça.
On ne peut pas revenir dans le passé, mais avez-vous l'impression que si à l'époque vous aviez eu ça, vos performances auraient été encore meilleures?
J'aime pas parler contre. Ben, compte, faire ben des non, comparaisons mais... avec la nouvelle génération et tout ça, mais pour répondre à la question, c'est évidemment oui. Il y a Usain Bolt, justement, je nommais son nom tout à l'heure, qui a encore le record du monde aujourd'hui. Il a dit récemment, si avec toute la technologie, tout ce qui se passe aujourd'hui, s'il était actif aujourd'hui, ben c'est 9-4 qu'il aurait couru. Mais moi, je le sais, ça. Je le sais, je le vois la pièce, je vois les instruments, je vois la technique d'entraînement, je vois tout ce qui se passe en technologie. Mais B1, en plus de ça, tout ça, là, c'est comme j'aurais aimé être dans cette génération-là. Ouais. C'est vraiment incroyable. Ben oui, c'est sûr que j'aurais couru plus vite que ça, beaucoup plus vite que ça. C'est sûr que ça fait 100%, je suis convaincu.
Mais là, on parle de l'impact de ce produit-là pour un athlète professionnel ou même pour un athlète amateur. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, parce que vous faisiez allusion à ça récemment là, dans une course qui a été faite par votre fondation, il y avait des monsieur, madame, tout le monde qui l'utilisaient, donc des coureurs du dimanche, là, si on veut.
Ouais.
Ça peut leur amener quoi, ça?
Ben, c'est exactement la même chose.
La même chose.
C'est pour faire que ce soit un 5 km ou un 10 km, demi-marathon, marathon, ça prend une préparation. Quelqu'un qui dit, ben, j'en vois plein, moi, je suis un gars je suis dans la rue, je fais beaucoup d'événements. Des gens qui me disent, ah, mon objectif cette année, ben, je vais courir X temps au marathon de Montréal. Ben, il y a un processus. Si tu veux arriver au marathon de Montréal, mais que tu as un objectif précis pour toi, pas pour être champion du monde, mais pour toi, ben tout ce processus-là, pourquoi tu ne mets pas tous les avantages de ton côté, justement, pour arriver à faire cette compétition-là, sans blessure, évidemment. C'est tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis, mais pour que ce soit un athlète de haut niveau, monsieur, madame, tout le monde, ça va servir. J'ai vu des athlètes, monsieur, madame, tout le monde, qui ont terminé des marathons en 5 heures, et puis ils étaient comme, waouh! C'est comme s'ils avaient gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques, parce que c'est leur objectif à eux. Ils ont réussi à le faire. Donc, en offrant ce produit-là à, justement, monsieur, madame, tout le monde, ben, écoute, c'est un plus. Puis moi, j'encourage tout le monde à l'utiliser, parce que vous allez voir les bénéfices de ça.
Question d'être pratique. Ce brassard-là, aujourd'hui, on peut le retrouver où?
Présentement, il est comme en pré-vente. Puis très, très, très bientôt, j'ai pas la date exactement, il va être commercialisé. Mais là, on est dans la phase vraiment finale de le commercialiser. Mais ils peuvent aller sur le site web, ils vont avoir l'information là-dessus. Mais je sais que les gens peuvent l'acheter en pré-vente aussi.
D'accord. Bruni, je peux pas vous avoir avec moi puis pas vous parler des Jeux olympiques, d'autant plus que vous les avez mentionnés. Alors, je me sens libre de vous poser la question. C'est pas rien, hein, être chef de mission. Vous partez, vous êtes le grand frère, le parrain, l'âme sœur. Ouais. Prenez le mot que vous voulez, là. Il y a toute une génération d'athlètes qui partent à Paris avec vous à côté, comme image, et un champion olympique. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir cette position-là, d'avoir cette responsabilité-là cet été?
Ah, vous me posez la question, j'ai le cœur qui bat plus vite instantanément. Écoute, je suis vraiment chanceux, mais tout ça arrive à un moment vraiment incroyable. Ça fait, depuis que j'ai pris ma retraite, j'ai dit ouvertement aux fédérations, au comité olympique, j'aimerais être impliqué. J'aimerais rester impliqué parce que tout ce que j'ai appris dans le temps aussi, bonne ou mauvaise expérience des Jeux olympiques, championnats du monde et tout ça, j'aimerais ça avoir la possibilité justement de transmettre ça, d'inspirer la nouvelle génération. Et ça fait pratiquement un an et demi maintenant quand ils m'ont nommé chef de mission. Écoute, je sautais au plafond, c'était vraiment incroyable. Juste le fait d'être avec les athlètes. V'là 2 semaines, on était à Toronto pour le lancement de l'équipement de Lululemon que les athlètes m'ont porté. J'avais le gilet Canada sur mon dos avec quoi on va aller à la cérémonie d'ouverture. D'avoir cet accès-là avec les athlètes, pour moi, c'est un rêve devenu réalité. Moi, on m'a dit avec la passe, l'accréditation que je vais avoir, je vais pouvoir aller partout. c'est incroyable. Puis moi, j'ai dit aux athlètes aussi, j'ai été sur le terrain, j'ai voyagé partout au Canada, aller les voir en entraînement, en compétition, rencontrer leur entraîneur, tu sais, avoir un peu d'historique d'eux, de leur connaître de plus en plus. Puis parce que je veux créer ce lien-là avant Paris. Je veux pas arriver à Paris, puis ben écoute, je connais pas mon équipe, je connais pas les athlètes, c'est la première fois que je les rencontre aux Jeux olympiques. Je voulais faire ce travail-là avant. Oui, ça demande beaucoup de temps en termes de montant d'investir là-dedans, mais c'est quelque chose que je prends vraiment à cœur, puis je le fais vraiment avec plaisir.
À l'époque, quand vous étiez un athlète sur le terrain, vous avez fait les Olympiques, vous le dites tout à l'heure, vous vous êtes préparé. Des années de votre vie ont été passées à se préparer pour un jour décrocher ces médailles-là. Mais aujourd'hui, là, le même Bruni Surin, comment il se prépare mentalement, physiquement pour être chef de mission et mettre le pied sur le terrain le jour de l'ouverture? Là, comment vous préparez?
Avant notre entrevue, je sortais de l'entraînement. Je veux que le chef de mission il soit en forme aussi, représenter les athlètes. Ça, c'est de un. Puis tout ça pour vous dire aussi, il y a quelques jours, on avait, je disais 2 semaines passées, on avait le 100 jours. Oui. Avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Et je ressentais le build-up des Jeux olympiques. Les médias étaient là, les athlètes étaient contents, comme on a hâte, c'est 100 jours. Puis moi, je les sentais, ça. Quelques jours après, je commençais à penser à ça. Puis il y a quelques jours, j'avais de la difficulté à dormir, comme si j'étais un athlète dans le temps, parce qu'on sent l'excitement.
Mais c'est tout un bagage qui revient dans votre tête.
Oh aussi. My God, c'est tout un bagage, c'est incroyable. La semaine passée, j'étais avec tout le on appelle ça le mission staff, c'est tous les entraîneurs, les bénévoles qui vont travailler, c'est tout le behind the scenes, l'arrière scène.
Pour l'entourage des athlètes.
Pour l'entourage des athlètes, j'ai donné une conférence aux gens, question de les motiver, tout ça, mais tout ça là, c'est une grande préparation. Puis maintenant que je suis encore plus impliqué, je vois tout le travail qu'il y a derrière ça. Parce que c'est sûr que nous, on garde les athlètes, OK, c'est bien beau, Canada, la France et tout ça, voilà, mais le travail qu'il y a derrière ça, la logistique et tout, écoute, il y a du travail vraiment incroyable là-dedans. Puis moi, c'est pour ça que je me dis, écoute, je le prends pas à la légère. Je suis en communication tout le temps avec le Comité olympique canadien. On a des rendez-vous, on a des zooms qu'on fait parce que moi aussi, je vais être informé à 100%. Parce qu'un athlète qui vient me voir pour me demander quelque chose, ben j'essaie d'avoir les réponses. Si je peux pas dire ben, tout le temps, ben je sais pas à quoi tu sers, tu comprends? Mais tout ça là, c'est un travail que je fais. Je pourrais dire toutes les semaines. Lundi prochain, je vais être à Toronto pour aller voir les nageurs parce que c'est le Olympic Trials.
Ah ouais.
Pour les nageurs, pour se qualifier pour Paris. Initialement, c'était supposé d'être à Montréal, mais on sait que le stade olympique a eu le feu. Donc, maintenant, la compétition va être à Toronto. Mais lundi, mardi prochain, je suis à Toronto. Puis ça, c'est mon temps, là. Puis je vais les encourager, les athlètes, go, 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 Canada. Puis j'ai hâte. Tu sais, c'est le fun parce que à chaque jour, à chaque fois que je vais faire un événement, que ce soit avec les athlètes, pour le Comité olympique canadien, je le fais, écoute, avec enthousiasme, j'ai le sourire, c'est incroyable, j'adore ça.
Ah, ça s'entend dans votre voix. Bruny Surin, je vous souhaite un bon entraînement d'ici les Jeux olympiques. Je vous souhaite d'excellents JO. Et je rappelle qu'on se parlait concernant les brassards B1 là, qui vont bientôt être disponibles sur le marché, mais qui sont disponibles en précommande. Bruny Surin, champion olympique canadien, chef de mission de la mission canadienne cet été aux JO de Paris. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
Ça m'a fait plaisir. Merci. Super belle entrevue. Merci.
Merci. Il y a deux semaines, Bell Media a fait l'annonce de son entrée dans le monde des chaînes FAST. Ça existe beaucoup aux États-Unis, ça existe beaucoup en Europe, mais ici au Canada, il y en a encore peu. C'est-à-dire des chaînes de télé uniquement disponibles sur les télés branchées à Internet. Et dans ce cas-ci, plus spécifiquement, dans le cas de Bell Media, on parle de téléviseurs intelligents de marque Samsung et LG. Pourquoi? Comment et qu'est-ce que ça va changer pour les gens qui possèdent ces téléviseurs? Bon, on va poser ces questions et bien d'autres d'ailleurs à la vice-présidente de développement de contenu, programmation et information chez Bell Media Télévision, Radio et Numérique. Bonjour, Suzanne Landry.
Bonjour.
Madame Landry, Bell investit le domaine de ce qu'on appelle les chaînes FAST. Donc, des chaînes qui ne sont pas comme, par exemple, une de vos propriétés, Nouveau, mais et pas une chaîne spécialisée comme d'autres chaînes que vous avez, mais un autre type de chaîne. Avant de savoir pourquoi vous allez là, j'aimerais que vous me décriviez qu'est-ce que c'est une chaîne FAST.
Ben, en fait, une chaîne FAST, c'est une chaîne de diffusion en continu, numérique, gratuite, qui est assez accessible, évidemment, sans passer par un service de télédistribution. Et ça permet d'avoir des contenus thématiques. Donc, c'est une programmation plus nichée, plus spécialisée. Et la programmation, elle est bien sélectionnée parce qu'elle est présentée en continu. Alors, il y a, une certaine facilité pour l'utilisateur qui va aller chercher la chaîne en question pour regarder un contenu thématique qu'il va avoir choisi. On en a lancé 10 la semaine dernière, effectivement. Mmh.
Puis on va revenir sur ces chaînes-là, mais pour les chaînes traditionnelles que Bell Media possède déjà en français et en anglais à travers le pays, ce sont des chaînes qui vous ont été octroyées par une licence du CRTC. Dans le cas des chaînes FAST, c'est vraiment une initiative du diffuseur?
Oui, exactement. En fait, on a différentes plateformes. On a des plateformes de chaînes linéaires comme Nouveau, les chaînes spécialisées. On a Crave aussi, qui est une plateforme de streaming. Donc, une plateforme en diffusion continue numérique, Crave. Alors, les FAST, dans le fond, c'est une nouvelle plateforme qui arrive. C'est assez nouveau au Québec, mais au Canada, on compte actuellement 1500 FAST channels. Alors, oui, au Québec, c'est nouveau. Mais ça existe quand même dans le paysage. Puis aux États-Unis, il y en a encore plus. Évidemment, aux États-Unis, ça a parti en 2014 avec Pluto. Et après ça, ça s'est, je dirais, accéléré, disons, dans la dernière année et demie. Oui, c'est une initiative. Puis l'initiative, en fait, c'est que on a, bien sûr, toutes nos plateformes. Chaîne linéaire Nouveau, chaîne spécialisée, Crave, Nouveau.ca aussi, qui est une plateforme numérique qui présente des contenus. Alors, les FAST, ça représente pour nous une autre vitrine pour aller présenter nos contenus, pour les faire découvrir également, découvrir des marques. Alors, notre objectif, c'est de toujours être à l'affût de quelles sont les plateformes pour présenter nos contenus, les faire découvrir, puis les faire découvrir aux gens là où ils sont. Et quand je dis là où ils sont, ben, il faut savoir que selon l'OTM, il y a 69 % des adultes qui sont propriétaires d'une télévision connectée, donc 69 %. Alors oui, il y a une opportunité d'aller rejoindre des Canadiens, des Québécois pour avec nos contenus. Alors, c'est une façon de donner une autre vitrine à nos contenus et de promouvoir nos marques.
Est-ce qu'il y a un avantage à opérer une chaîne FAST? Est-ce que ça vous permet de présenter un type d'émission que vous n'auriez pas nécessairement présenté sur une de vos antennes principales, que ce soit chaîne spécialisée ou chaîne généraliste?
Pour l'instant, je dirais plutôt que c'est une autre vitrine pour présenter nos contenus. C'est plus qu'on a différents, on a beaucoup d'inventaire en termes de contenu sur l'ensemble de nos plateformes. Alors là, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on travaille nos stratégies de diffusion selon les plateformes. Et l'avantage, je dirais que ça nous permet, c'est un, d'aller chercher des audiences différentes. Parce que de prendre un contenu, je vais vous donner un exemple qui n'est pas un exemple de FAST, mais vous allez comprendre qu'un contenu peut être présenté sur plusieurs plateformes et aller chercher des auditoires différents parce qu'il y a des profils différents qui regardent les contenus sur chacune des plateformes. Je vais vous donner l'exemple de Survivor. Bien, Survivor est diffusé sur Nouveau. Hein, on a fait 1 million avec le premier épisode en auditoire. On le diffuse également sur Nouveau.ca et on le met également sur Crave. Et il fait bien et il va chercher d'autres auditoires sur Nouveau.ca, sur Crave et sur Nouveau, parce que ça me permet de donner une vitrine et d'aller chercher des auditoires différents. Bien, les FAST, c'est aussi ça l'objectif, c'est d'aller présenter des contenus, d'aller chercher un auditoire différent. Aussi, évidemment, c'est des plateformes numériques gratuites, mais avec publicité.
Financées par la publicité, c'est ça.
C'est ça, financées par la publicité. Alors, c'est une autre façon, je dirais, d'aller chercher des occasions publicitaires pour financer le contenu original qu'on fait, évidemment. Et pour les annonceurs, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les FAST, c'est des contenus plus nichés. Donc, c'est une cible…
Une clientèle plus nichée.
Une clientèle plus nichée. Donc, à ce moment-là, pour l'annonceur, ça devient intéressant d'avoir une publicité très ciblée. Alors, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut considérer dans notre choix.
Vous m'amenez à ma prochaine question. Est-ce que, quand on parle de ratio publicitaire dans l'heure, par exemple, question d'avoir une référence, est-ce que sur une chaîne FAST, il y a autant de minutes passées en publicité que sur une chaîne traditionnelle?
Il y a moins de publicité sur la chaîne FAST. C'est un peu plus court. Il y a peut-être, disons, ça peut être un avantage, je dirais, au niveau de l'expérience, effectivement.
Quand j'ai lu votre arrivée donc dans le monde des chaînes FAST, ce qui m'a surpris, c'est que vous avez fait, j'allais dire, un choix éditorial. Vous avez été avec deux constructeurs de télé, donc dans la programmation de LG, dans la programmation de Samsung. Pourquoi ce choix-là? Vous auriez pu tout simplement lancer ces services-là, les rendre disponibles sur les petites boîtes intelligentes là, qu'on connecte à nos télés. Pourquoi un choix avec des fabricants de télé bien ciblés?
Ben, en fait, je vous dirais que ça, on vient de faire une annonce la semaine dernière et je vais vous dire qu'on va faire d'autres annonces éventuellement. Alors, je peux au moins vous dire ça tout de suite. Mais l'idée, c'est aussi, ça part de la prémisse aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des télévisions connectées. Et ce qui est intéressant, on a quand même 69 % des Québécois, puis dans le Canada anglais, c'est encore plus élevé que ça. Donc, ce qui est intéressant aussi d'être associé avec un LG ou un Samsung, éventuellement, probablement d'autres, c'est que c'est une façon que quand les gens ouvrent leur téléviseur, c'est tout de suite à l'écran. Donc, quand on parle de découvrabilité, on en parle depuis quelques années de ce mot-là, découvrabilité, et c'est normal parce qu'avec la multiplication des plateformes, on fait des bons contenus, mais encore faut-il que les gens les découvrent. Alors ça, c'est une belle façon que de découvrir les contenus quand on ouvre sa télé et déjà, les chaînes sont mises de l'avant. Alors, ça fait partie des raisons pour qu'on a choisi les téléviseurs en question. Et comme je vous dis, il y a d'autres annonces qui sont.
Bon, on sera patient pour les autres annonces. Je reviens sur un aspect de votre réponse parce qu'à deux fois, vous avez parlé de la possibilité d'aller chercher une nouvelle audience. Il n'y a pas tellement longtemps, vous auriez dit d'aller rejoindre les jeunes. Mais là, aujourd'hui, c'est pas que les jeunes. Et justement, parce qu'on parle de téléviseurs intelligents, on s'adresse à la fois peut-être à des jeunes qui sont plus en mode mobile, mais aussi à des gens d'un certain âge qui, eux, ont décidé de la télé, ça demeurait toujours leur navire amiral pour le divertissement, là.
Oui, en fait, l'important quand on fait du contenu, c'est de rejoindre le plus large auditoire. Évidemment, on veut rejoindre le plus large auditoire. Au niveau de notre positionnement, c'est vrai que pour ce qu'on parle de Nouveau.ca et Crave, c'est vrai qu'on a dit que quand on est arrivé dans le marché, qu'on voulait rejoindre un plus jeune auditoire. La raison est simple, c'est qu'il y a déjà des plateformes qui étaient en place, qui rejoignaient un groupe d'âge plus âgé. Alors nous, on a fait le choix de se positionner un peu plus jeune et aussi parce qu'on croit que si pour l'avenir de notre industrie, encore faut-il renouveler nos auditoires. Donc, ça fait partie de la survie de notre industrie de renouveler. Maintenant, donc on veut rejoindre tout le monde, mais oui, on a ciblé avec ces plateformes-là plus jeunes. Pour ce qui est des fasts, je vous dirais qu'encore là, on cible dans le fond les détenteurs de télévision connectée et encore là, c'est un groupe large, un groupe qui peut être très large. Mais selon les chiffres aux États-Unis, on verra les nôtres parce qu'on a lancé la semaine dernière, fait qu'on pourra se reparler dans quelques semaines. Puis on pourra regarder le profil des auditoires. Mais aux États-Unis, ils constatent quand même que malgré tout, même si on parle de télévision connectée qui demande un certain investissement, il reste que les 18-34 ans consomment beaucoup de fast. Et la raison, c'est aussi parce que on se rend compte que mais là, je parle des chiffres plus aux États-Unis parce que on n'a pas de data au Québec. On est les premiers, en fait, à avoir lancé un aussi grand nombre de chaînes francophones de front. Mais en fait, c'est que il y a quand même certaines personnes qui ne sont pas abonnées aux plateformes par abonnement et c'est souvent des plus jeunes. Alors, donc, c'est aussi une façon d'aller les chercher avec des contenus parce que les FAST, c'est gratuit. Alors, c'est aussi une façon de rejoindre plus jeunes, mais encore là, on ne cherche pas à rejoindre que les plus jeunes, bien sûr.
Alors, là, on parle beaucoup de stratégie, mais qu'en est-il du contenu? Donc, vous le disiez, vous avez lancé 10 chaînes. La majorité sont en anglais, mais également, on en trouve en français. À quoi ça ressemble?
Alors, dans les chaînes francophones, on a Nouveau Comédie, on a Nouveau Télé-réalité et on a Nouveau Cinéma. Donc, on en a 3 en français. Comme je vous dis, il y en aura d'autres qui vont s'ajouter. Alors, Comédie, dans le fond, c'est qu'on a mis ces différentes émissions qui sont sur la plateforme, qui s'enchaînent une après l'autre, parce que c'est vraiment une diffusion linéaire, donc des émissions de comédie. Télé-réalité, évidemment, ça le dit bien. Et pour ce qui est du cinéma, ben encore là, c'est toutes sortes de films qui vont de la comédie jusqu'au thriller. Alors, c'est ce qu'on a pour l'instant au niveau de nos chaînes FAST.
Puisque vous êtes la grande chef de la stratégie dans la programmation, quel est l'ordonnancement de diffusion, de disponibilité d'une nouvelle création aujourd'hui maintenant chez Bell Media? Est-ce qu'elle part à quelque part sur une plateforme et elle fait son cheminement pour finir sa vie sur une autre plateforme?
En fait, de la façon qu'on bâtit on développe nos contenus, je devrais dire, c'est qu'on développe nos contenus en fonction d'une plateforme parce que chaque plateforme a quand même un certain ADN et une certaine cible recherchée. Alors, on travaille un contenu pour une plateforme spécifique, que ce soit Crave, que ce soit Nouveau, que ce soit même Nouveau.ca, notre contenu exclusif ou en primaire. On a les chaînes spécialisées. Donc, on développe un contenu pour la chaîne en question. Alors, il y a ce qu'on dit, une diffusion en première fenêtre qui peut durer longtemps, très longtemps. Et à un certain moment, c'est vrai qu'on va utiliser d'autres plateformes pour justement amener soit en rattrapage ou des fois pour amener une deuxième fenêtre qui peut arriver un an plus tard. Alors oui, on va programmer le contenu en fonction des différentes plateformes et le contenu va avoir une vie pendant plusieurs mois et même certaines fois années. C'est aussi une façon de financer le contenu original que de travailler comme ça parce que à chaque fois, ben dépendant de la plateforme, on va chercher des revenus d'abonnement, on va chercher des revenus publicitaires qui est nécessaire parce que évidemment, faut les financer ces contenus.
En terminant, Mme Landry, la semaine passée, il y avait le ministre Lacombe qui a présenté sa stratégie. Vous en parliez de la découvrabilité. Comment vous percevez ça comme productrice, comme diffuseur aussi, de voir ces efforts-là? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à cette démarche ou cette volonté du gouvernement du Québec de faire de la pression auprès des grands joueurs pour s'assurer que les productions canadiennes sont plus en vue? par leurs clients consommateurs québécois et canadiens?
Bien, en fait, c'est un dossier qui n'est peut-être pas facile à mettre en place. D'un autre côté, effectivement, je veux dire, plus nos contenus vont avoir de visibilité, plus nos contenus vont être affichés dès l'accueil sur une plateforme, ça va être intéressant parce que on a beau dire s'il y a des plateformes étrangères qui bon, on peut mentionner qu'ils vont, mettons, investir dans du contenu québécois-canadien, mais si on a de la difficulté à le trouver sur la plateforme, ça aide pas beaucoup de faire découvrir, évidemment, nos talents et nos créateurs. Alors, donc, oui, de dire qu'à partir du moment où les plateformes qui diffusent du contenu sur le territoire canadien mettent en évidence notre contenu, c'est sûr que ça peut aider. Est-ce que c'est un dossier facile? Non, ce ne sera pas un dossier facile. Mais plus il y aura de visibilité pour nos contenus, plus ça va aider notre industrie, les créateurs, et aussi amener les consommateurs à en redemander, parce qu'il faut être exposé à notre contenu pour ensuite avoir le goût de continuer à regarder les contenus québécois. Et ça, c'est vrai à tout âge. Puis il faut le faire aussi pour que les plus jeunes embarquent dans le même bateau.
Suzanne Landry, vous êtes vice-présidente développement de contenu, programmation et information chez Bell Media Télévision, radio et numérique. Ça vous fait beaucoup de chapeaux, ça, mais ça vous donne une bonne position pour tout voir l'ensemble du tableau. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Ça me fait vraiment plaisir. Merci.
À la fin du mois, le 29 mai plus précisément, les gens derrière les rendez-vous de la création de contenu organisent le sommet de l'IA et de la création. Une grosse journée pour parler de création de contenu en utilisant divers outils qui carburent à l'intelligence artificielle. Pour nous parler de cet événement, on va aller rejoindre à l'instant le cofondateur et présentateur de l'événement. Bonjour David Pierre-Aubin.
Salut Bruno.
Si je te demandais, j'ai essayé de le faire, mais je suis pas sûr que je suis assez convaincant. Si je te demandais de présenter l'événement du 29 mai, comment tu présentes ce sommet de l'IA et de la création?
C'est un sommet pour les gens de création de contenu. C'est un sommet relié à la communication marketing. Le sous-thème qu'on s'est donné, c'est par où commencer. L'idée, c'est qu'en ce moment, tout le monde entend parler de l'IA, ça va révolutionner notre façon de faire du contenu. Ça, on le sait, c'est déjà en cours. Mais il y a de la confusion, il y a des gens qui veulent se lancer, ils ne savent pas par où commencer. Ça va affecter nos pratiques. Bon, on s'est dit, un sommet pour commencer tout ça, pour lancer tout ça, on appelle ça par où commencer, tout simplement. Les gens viennent, ils apprennent. C'est le thème qu'on impose aussi à chaque panel qu'on fait. On va avoir 6 panels. C'est l'angle qu'on a pris pour chacun des panels. Par où commencer? Par où commencer à l'art du prompt? Par où commencer à découvrir des outils? Par où commencer si on est en agence, par exemple, etc.
Parler d'agence, qui on va retrouver dans cette formation-là? C'est pour qui exactement?
Je dis souvent que c'est pour les troupes qui sont sur le terrain.
Okay.
Quand je dis les troupes sur le terrain, c'est la Cordo Marketing qui gère la page Facebook. C'est le directeur marketing de la petite PME qui, lui, doit rendre des comptes puis doit livrer une performance. Ben, c'est pour ces gens-là. Des gens qui sont occupés, qui ont un travail à faire de création, qui sont liés à la communication marketing, qui ont plein de choses à faire puis qui sont débordés puis qui se disent « OK, ben j'ai pas le temps prendre 10 heures semaine, me former sur l'IA, j'ai besoin d'une façon rapide de me mettre à jour », ben ça va être l'événement parfait. Là. Tu viens, c'est une journée, tu passes à travers ça, puis déjà là, tu vas te dire « OK, ben là, j'ai un bon coup d'avance sur les autres, j'ai un chemin, j'ai un plan. »
Ouais. Votre pari, c'est ça, hein? C'est que les gens, une fois qu'ils auront passé ce bout de journée avec vous, ils partiront avec de l'information concrète qui pourra leur servir.
Bien, il n'y a pas de roadmap en ce moment sur ça, sur l'IA. C'est angoissant parce que ça va tellement vite, il y a tellement d'outils. À chaque semaine, il y a une nouvelle affaire, une nouvelle gogos. On va se dire 90% des outils, c'est garbage, là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est utile pour nous. On sait, c'est peut-être des affaires de bidouilleurs, c'est des trucs qu'on pourrait comme tester, bon, tout ça, mais en ce moment, à des fins commerciales, il n'y a pas tant de gens qui utilisent l'IA puis qui font de l'argent puis qui sont capables de générer des profits avec leur création, mais ça s'en vient, il faut se préparer.
Mais aujourd'hui, là, ça ressemble à quoi la vie si on prenait l'image d'un créateur de contenu moyen qui va avec tous les outils qu'il a déjà, mais qui n'a pas intégré à l'intelligence artificielle? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Où il pourrait gagner du temps?
Ben, Bruno, tu sais, les outils qu'on en ce moment, là, à l'heure actuelle, là, ça reste des outils faciles à utiliser. C'est le langage humain. Il n'y a rien de compliqué à utiliser ChatGPT versus Photoshop, mettons. Il n'y a rien de compliqué à utiliser Midjourney pour créer des images versus un Canva ou un logiciel Word. Les outils là, sont super faciles à utiliser. Fait qu'en ce moment, on n'est pas rendu à un moment où c'est compliqué à intégrer ça. Ce qui est différent en ce moment, c'est l'art du prompt, c'est la commande. C'est qu'il y a 5 ans, on s'imaginait pas que l'intelligence artificielle, ça allait être avec le langage naturel, puis qu'on allait juste donner des ordres, des commandes, des ordres là, à la machine. On aurait pu s'imaginer que bon, c'est une série de boutons dans ma suite Adobe ou c'est une série de boutons dans ma suite Office. Ben non, ce qu'on se rend compte maintenant, puis on n'aurait jamais pu prédire ça, c'est que, bon, certains auraient pu le prédire, mais moi, en tout cas, ça n'a pas été mon cas, c'est que finalement, l'intelligence artificielle, c'est de parler à une machine, c'est littéralement parler, là, c'est de savoir, tu sais, écrire, lui dire des commandes, lui dire des choses, puis elle les fait. Là, c'est très naturel, on utilise le langage humain. Moi, je trouve que c'est une belle victoire, hein, parce que c'est une victoire de l'art d'écrire, l'art de façon, la façon de dire. C'est sûr que là, on écrit de façon très littérale. Fait que tu me parles d'expérience qu'on a en ce moment, c'est pas mal ça qui se passe en ce moment. C'est que quelqu'un qui travaille en agence, qui travaille dans un département marketing, qui utilise les outils AI, ben essentiellement, il utilise les mots.
Mais c'est intéressant parce que dans le fond, ça revient à la genèse de la communication, c'est-à-dire savoir utiliser sa langue pour bien dire ce qu'on veut pour que l'intelligence artificielle générative, par la suite, génère ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment l'art de savoir écrire pour demander ce qu'on veut, sachant ce qu'on veut.
Ben, tu l'as dit, sachant ce qu'on veut. Fait que là, le défi, c'est savoir qui on est, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses, qu'est-ce qu'on veut donner à la machine? Est-ce qu'on veut lui donner tout le brainstorm ou c'est la partie le fun qu'on veut garder? Ben, en tant qu'humain, c'est toi qui décides, c'est toi le chef, c'est toi qui donne les ordres puis les commandes à la machine. Fait que ça, faut que ça soit clair pour toi. Connais-toi, connais tes forces, puis essaie de voir comment tu peux te transformer de artisan créateur à artisan, réalisateur, programmeur, curateur. Fait que dans le fond, une styliste va quand même faire du stylisme. Mais, un bon exemple, elle ne va pas retourner le matériel acheté chez Simons jusqu'au centre-ville, perdre 2-3 heures de son précieux talent à faire des tâches qu'elle n'aime pas, qu'elle n'a pas besoin de faire, et consacrer ces tâches-là à simplement créer puis avoir des bonnes idées. Mais là, elle n'aura pas besoin d'aller en magasin pour générer des idées. Elle va juste pouvoir l'écrire avec ses mots. Encore là, faut-il savoir écrire ou parler à la machine? Puis je pense qu'il est là le défi, Bruno.
Ben David Pierre-Opan, les gens qui voudraient avoir plus d'informations concernant ce sommet IA et création, qui est dans la grande série des rendez-vous de la création de contenu là, que vous organisez à l'année longue, où ils peuvent aller?
rdvcreation.com, c'est notre site. Ça a lieu le 29 mai. C'est en virtuel, mais tous les panélistes sont ensemble dans un studio. Ça dure une journée, 6 panels, très dense en contenu, très riche, une belle journée. Point de départ pour tout le monde, pour votre nouvelle envolée vers le monde de l'IA.
Ben, belle initiative. J'ai l'impression que ça va permettre à des gens d'être plus productifs. Puis, je reviens un peu sur ce que vous disiez. Je pense que ça va permettre à des gens d'apprendre, de se poser la question de savoir ce qu'ils aiment et ça va leur permettre de prendre plus de temps pour faire ce qu'ils aiment dans leurs tâches et ils vont réserver le travail plus plate, plus répétitif à l'intelligence artificielle.
Ouais, mais Bruno, il faut se lancer maintenant parce que en ce moment, les gens qui commencent à utiliser ces outils-là, là, dans un an, deux ans, trois ans, ils vont avoir de l'avance sur tout le monde. C'est eux qui vont gagner à la game, même s'ils ont moins de talent que vous. Ça, c'est important.
Très sage. David Pierre-Aupane, merci beaucoup pour cette entrevue. Bon sommet de l'IA et de la création.
Merci Bruno, merci infiniment.
Ici Patrick Pierra, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref? C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet.
C'est le temps de céder le microphone à mes collaborateurs et on a de la visite de Suisse cette semaine. L'ami Thierry Aubert nous envoie un billet audio au sujet de son nouveau coup de cœur, son nouveau coup de foudre, le petit Rabbit R1.
Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Dans l'univers effervescent des gadgets technologiques, l'arrivée de nouveaux appareils est toujours accueillie avec une curiosité mêlée d'un scepticisme aiguisé. Le dernier en date, et oui, pour le 1 pour lequel j'ai aussi craqué, le Rabbit R1 ne déroge pas à cette règle. Ce petit accessoire vendu à environ 200$ aux États-Unis et dévoilé avec enthousiasme lors du salon CES 2024 à Las Vegas, prétend offrir une alternative au smartphone traditionnel. Or, il semble que sa promesse pourrait être un peu plus superficielle qu'annoncée. Le Rabbit R1, produit par la société Rabbit, est un appareil compact équipé d'un écran de 2,88 pouces, d'une molette de défilement, d'un micro et d'un haut-parleur. Sa caractéristique la plus distinctive est sans doute son appareil photo rotatif. Un clin d'œil à certaines innovations passées qui tentaient de repenser l'ergonomie des gadgets mobiles. Son design et ses fonctionnalités rappellent étrangement la console Playdate, lancée par Panic en 2021, en collaboration justement avec Teenage Engineering, qui a également participé à la conception du R1. Cependant, une révélation du site Android Authority vient de jeter un pavé dans la mare. Le site a réussi à faire fonctionner le système d'exploitation du Rabbit R1, le Rabbit OS, sur un simple smartphone, le Google Pixel 6a. Ils ont découvert que le système pouvait être réduit à une application Android au format APK, ce qui soulève des questions sur la réelle nécessité de l'appareil. Une fois installé, cette application reproduisait l'interface minimaliste du R1, y compris son emblématique tête de lapin, mais sans toutes les fonctionnalités originales. Elle permettait néanmoins de recevoir des réponses de son modèle d'IA, le Large Action Model, le fameux LAM, après des commandes vocales. Face à ces critiques, Jess Liu, le directeur de Rabbit, s'est exprimé sur le réseau social X pour défendre son produit. Il insiste sur le fait que le Rabbit R1 n'est pas une simple application Android, expliquant que Rabbit OS et LAM fonctionnent sur le cloud avec des adaptations très spécifiques de l'AOSP, l'Android Open Source Project. Il justifie ses choix par des impératifs de sécurité, cherchant à empêcher l'accès à des services en dehors de son propre matériel. Malgré cette défense, les détracteurs restent nombreux. Ils se demandent pourquoi utiliser un appareil distinct quand la majorité de ses fonctionnalités pourraient être émulées par un simple smartphone existant. Cette situation souligne une tendance croissante dans le domaine technologique. De plus en plus de produits lancés sur le marché semblent d'abord tester les eaux avec les fonctionnalités innovantes avant de se voir confrontés à la réalité des attentes et des usages des consommateurs. L'épisode du Rabbit R1 illustre parfaitement cette dynamique. Il met en lumière l'importance des retours des utilisateurs dans le cycle de développement des produits technologiques. Les entreprises sont de plus en plus enclines à publier des mises à jour et des améliorations basées sur l'expérience client, cherchant ainsi à affiner leurs offres pour mieux répondre aux besoins réels du marché. Cette interaction continue entre conception, feedback et amélioration est devenue un pilier essentiel de l'innovation technologique, rappelant que derrière chaque gadget se trouve une série de décisions influencées par des utilisateurs de plus en plus avertis. D'ailleurs, entre-temps, le Rabbit R1 a déjà connu sa première mise à jour. En conclusion, l'affaire du R1, du Rabbit R1, nous rappelle que dans l'ère numérique actuelle, la frontière entre hardware et software devient de plus en plus floue et que la voix du consommateur joue un rôle crucial dans la maturation de chaque nouveau produit. Et comme je ne suis pas un des heureux élus à avoir déjà reçu son R1 commandé il y a maintenant plusieurs mois, je vais devoir donc encore patienter pour me faire une seconde opinion, une fois l'objet dans mes mains, pour voir si, d'ici là, de nouvelles améliorations seront apportées à ce device. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
Cette semaine, Stéphane Ricoul revient sur l'esprit critique qui a, selon lui, son importance dans une intégration réussie des technologies avancées dans notre société.
Selon le site web français l'espritcritique.fr, le développement de l'esprit critique, c'est une affaire de structure et de réflexes intellectuels et émotionnels. Et ça, c'est comme le vélo ou une langue étrangère, ça s'apprend. Parfait, car on va en avoir besoin dans les années à venir, surtout nos enfants et leurs enfants, face au développement des outils de génération, peu importe de quoi, basés sur l'intelligence artificielle. Quand on commence à lire un peu sur c'est quoi l'esprit critique, on comprend que cela repose sur deux dimensions principales. La première porte le nom de compétence. Il s'agit des capacités intellectuelles permettant d'évaluer de manière rationnelle et objective les informations, les arguments et les décisions. Par exemple, savoir identifier les biais, remettre en question les affirmations sans preuve, etc. La deuxième porte le nom de disposition. Ce sont les attitudes et les réflexes mentaux favorisant l'exercice de l'esprit critique, comme le scepticisme, la curiosité, l'indépendance d'esprit, l'autocritique, etc. Si l'esprit critique fonctionne grâce à un équilibre entre des compétences intellectuelles et des dispositions mentales, il faut comprendre que cela ne se fait pas simplement sur un claquement de doigts, mais que cela s'acquiert et se cultive à travers des pratiques spécifiques. Il ne faut pas hésiter à encourager des choses comme le questionnement, le débat contradictoire, la distinction entre esprit critique et simple prise de tête. Pour ce dernier point, il y a peut-être une petite interprétation de ma part dans ce que j'ai pu lire, un biais qui me vient sans doute de mes origines où le débat est un sport national particulièrement prisé. Dit dans des mots plus politically correct, l'objectif est de rendre le scepticisme et l'enquête socialement valorisés. Mais pourquoi je vous parle d'esprit critique ici? Parce que l'esprit critique permet de ne pas se fier aveuglément aux affirmations des autres, d'être objectif dans ses jugements et de savoir reconnaître ses propres erreurs. Et quand je parle des autres, vous l'aviez compris, je parle de l'intelligence artificielle générative et de tout ce qu'elle nous recrache à longueur de requêtes de notre part qui nous force, si l'on veut rester crédible, à nous forger des jugements toujours plus solides. Vous allez me dire que cela date un peu, mais ce que je suis en train de dire est typiquement en lien avec l'effet Barnum, qui date de 1949, mis en évidence par le psychologue Bertrand Forer, qui nous montre comment les gens ont tendance à valider subjectivement des descriptions vagues et positives comme étant spécifiquement adaptées à leur cas personnel, illustrant ainsi un manque d'esprit critique face à des affirmations génériques. Et ça, je le tire du livre « L'esprit critique pour les nuls » de Thomas C. Durand. En gros, ce que ce monsieur dit, c'est que dans la société de consommation d'aujourd'hui, les individus ont tendance à être trop souvent conformistes et n'utilisent pas suffisamment leur pensée critique, étant trop absorbés par la recherche du bien-être matériel. Un aspect que nos géants du numérique ont bien compris depuis longtemps et qu'ils ont injecté à forte dose dans leurs algorithmes de recommandation ou de recherche. Un biais cognitif qu'ils ont exploité et continuent de faire, faisant de nous des êtres de moins en moins critiques, bien souvent par pure procrastination. Je reprends souvent cet exemple, mais les applications du type Waze, pour nous aider à trouver le meilleur chemin, ont mis complètement à off notre esprit critique. Bon, parfois, ok, on se dit, c'est pas vrai que je vais prendre ce chemin, mais dans la grande majorité des cas, on accepte la proposition sans se poser plus de questions, car leur narratif est si puissant qu'ils ont réussi à nous faire croire qu'il n'y a rien de plus fiable que les réponses que leurs applications nous fournissent. Et demain, voire aujourd'hui, et ça aurait été bien mieux hier, c'est la déferlante intelligence artificielle générative dont nous allons devoir nous méfier. Sans esprit critique, la bataille est perdue d'avance. Avec un esprit critique, nous serons capables de faire de grandes choses. Souvenez-vous de Alexander Fleming, qui inventa la pénicilline. Un bon exemple d'une réussite qui a nécessité un esprit critique. En 1928, alors qu'il étudiait les staphylocoques dans son laboratoire, Fleming remarqua que la culture d'une de ses boîtes de pétri avait été contaminée par un champignon, et plutôt que de jeter cette boîte, Fleming a fait preuve d'esprit critique et a observé attentivement ce qui s'y passait. Il constata alors que les bactéries autour du champignon avaient été détruites. Grâce à cette observation minutieuse, mais surtout son esprit critique, Fleming a pu identifier les propriétés antibactériennes de la substance produite par ce champignon qui s'est avéré être la pénicilline. Son esprit critique l'a poussé à remettre en question des résultats attendus et à explorer une piste inattendue, menant à une découverte médicale cruciale. C'est de ça dont nous allons avoir besoin à l'avenir face à l'intelligence artificielle. Remettre en question pour pouvoir explorer. C'est de cet appétit pour le dépassement, pour l'originalité, pour l'excentricité même s'il le faut, que les générations à venir vont devoir développer pour ne pas devenir des patates de sofa qui gobent tout et finissent par souffrir d'infobésité de mauvaise qualité, voire erronée. Mais pour le moment, selon le CQEMI, le Centre québécois d'éducation aux médias et l'information, les connaissances des jeunes sur l'intelligence artificielle générative sont très hétérogènes. Ils ne la comprennent pas toujours bien, d'où l'importance de les aider à développer un esprit critique. Dans le journal Le Devoir du 27 mars dernier, c'est Philippe Girard qui soulignait que de nombreuses personnes utilisaient l'IA générative sans trop s'interroger, appréciant la facilité qu'elle apporte au détriment de l'effort intellectuel, et faisant donc état d'un risque de remplacer le long et difficile travail de délibération par un simple assemblage de résultats sans véritable réflexion critique. Tout ça pour dire que face à l'omniprésence à venir de l'IA générative, on comprend qu'il est crucial de développer et de cultiver notre sens du jugement, notre curiosité et notre indépendance d'esprit. C'est le seul moyen de conserver notre humanité dans un monde de plus en plus dominé par les algorithmes, gavé aux données que nous produisons en quantité massive à chaque seconde. Loin de rejeter ces technologies, apprenons à les maîtriser avec un esprit critique aiguisé pour qu'elles restent nos outils et non nos maîtres à penser.
C'est le temps, comme à l'habitude, d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François.
Bonjour Bruno.
Jean-François, cette semaine, avant de parler de l'entrevue que tu vas nous présenter, qui est un avant-goût du WAC de Québec qui va se tenir à la fin du mois, je veux qu'on revienne sur la conférence de Celia Auden. Ça va se passer très bientôt, ça aussi. Et c'est vraiment l'occasion de pouvoir rencontrer en personne quelqu'un que les auditeurs de mon carnet ont eu la chance d'entendre à quelques reprises avec toi, qui est, j'allais dire, une experte en UX, puis notamment en gamification, parce que, écoute, ça m'avait tellement frappé cette entrevue-là, quand elle nous avait parlé de son parcours qu'elle avait fait chez Epic Games à l'époque là, pour le développement de Fortnite. Donc, tu l'as fait venir à Montréal et les gens vont pouvoir la rencontrer.
Exact. Puis on connaît la réputation de Fortnite hein, avec toutes les déboires qu'ils ont eu un peu au niveau du judiciaire parce que créer le côté un peu addictif du jeu et tout ça. Bon, ben derrière ça, il y a des gens, il y a des spécialistes, il y a des UX. Je pense que c'était pas leur volonté de faire quelque chose d'aussi addictif.
Mais ils ont bien réussi.
Ils ont bien réussi, exactement. Et Célia vient, je suis en contact avec elle depuis plusieurs années, donc avec le podcast. On l'avait fait venir à Montréal aussi un petit peu avant la pandémie. Elle avait rempli la salle au HEC. Et là, ben elle vient donner une formation d'une journée complète. Et le titre de la formation, bien, c'est psychologie cognitive, justement, UX et gamification en développement de produits. Donc, il y a un prix quand même, c'est 350 $. C'est moi qui l'organise avec un petit groupe, avec mon agence P2 et Bassan, l'agence Bassan, qui sont dans le UX aussi. Donc, on s'est dit, ben on va l'inviter. Elle était de passage à Montréal. Donc, on la prend dans une salle pendant une journée à la maison d'Otman et elle va venir nous partager sa science du UX, de la psychologie cognitive, pardon. Donc, je pense que ça va être intéressant. Puis ceux qui sont dans le domaine, qui veulent en apprendre plus sur ça, ben c'est le temps de les revoir ça. Là.
Ah ouais, c'est vraiment un accès au savoir. Bon, alors, si on veut avoir plus d'informations, où on va pour trouver les détails?
Les gens peuvent venir me voir sur tous mes réseaux sociaux. Alors, Twitter, c'est mon handle, c'est J-E-F-F Poulain ou J-F Poulain, ou bien sur, ben, c'est ça, sur LinkedIn également, j'ai toutes ces informations-là.
Excellent. Alors, on va à ton entrevue de la semaine. C'est un avant-goût du WAC que tu es en train de nous préparer. Ouais. Et tu as rencontré cette semaine Jean-Sébastien Baillant.
Exactement. Puis sa conférence au WAC, c'est le design décloisonné. Et je me demandais un peu qu'est-ce qu'il entendait par là, parce que moi, ça m'intrigue, hein, parce que dans le design UX, il y a évidemment le mot design. On peut dire que d'un côté, il y a le design, il y a la créativité, la recherche de simplification, la recherche de se rapprocher de l'humain. De l'autre côté, il y a la méthode un peu plus stricte, hein, qui, pour certains designers, ils vont trouver ça plus, ça les empêche peut-être de créer pour certains, ou ça leur donne cette impression-là. Alors que, ben, c'est ça qu'on va voir justement dans l'entrevue avec Jean-Sébastien, on en parle de ça parce que lui est designer. Le UX, c'est quelque chose, quand il y en a de besoin, il va embaucher avec son agence, mais c'est donc pas ça qu'il fait. C'est vraiment un designer et je trouve ça intéressant parce qu'on fait un rapprochement dans l'entrevue entre le design justement et le UX. Voilà.
Ben c'est ça, c'est intéressant d'avoir le point de vue de l'autre côté de la chaise. Là.
Ben, c'était ça mon objectif, que surtout quand j'ai vu le titre de sa conférence, le design décloisonné, je me suis dit, ah, intéressant, parce que on arrive vraiment à ce point-là dans l'industrie où on se pose la question, comment on articule le UX par rapport au design. Tu te souviens, j'ai eu un invité dernièrement, juste un petit peu avant Noël, où on parlait justement de la définition du design qui est très large et parfois même mal utilisée quand on parle de design thinking ou de design de service. Il n'y a plus beaucoup de l'exercice de la création qui est dans ce paradigme-là. Donc, il y a des grandes questions qui se posent en ce moment dans le métier.
Bon, ben, la table est mise, Jean-François. On va aller écouter cet entretien avec Jean-Sébastien Baillant. Et ben, moi, je te remercie pour cette rencontre-là. Et puis nous, on se retrouve à la fin du mois, le 31 mai, parce qu'entre-temps, il va y avoir deux émissions spéciales. Alors, Jean-François, merci beaucoup. Puis à très, très bientôt.
À bientôt. Bye-bye.
Ouais, c'est très drôle que tu me rappelles. Quand tu m'as rappelé au début de la conversation, c'est que mon thème, c'était le design décloisonné.
Ouais.
Tu m'as ramené à ce que c'est vraiment que j'ai proposé pour la conférence. Mais dans ma tête, jusqu'à maintenant, là, dans ma tête des dernières semaines, je m'en allais faire une conférence sur le design intuitif. Alors là, tu vois, tu viens juste de me ramener, ah, c'est vrai, c'était ça mon thème, je me souviens pourquoi je l'ai choisi comme ça, mais c'est pas éloigné, hein, c'est pas éloigné. Mais quand j'ai pensé au thème des cloisonnés, il faut quand même dire, là, donc je dévoile que je vais parler du design intuitif aussi.
Mm-hmm.
Et le design des cloisonnés, c'est un peu, mais je pense que ça va avec le design intuitif, c'est un peu, qui dit intuition dit aussi enfance, dit il y a une espèce de naïveté dans l'intuition qu'il faut écouter. Et donc cette idée c'est d'être sans père, puis de dire je vais essayer ça, je peux essayer ça. Je connais pas les règles de ça, c'est pas grave. Moi j'ai vu que j'ai commencé en design sans règles. C'est drôle parce que je rencontrais un stagiaire juste avant puis je racontais à quel point j'adorais ça d'avoir surtout dès mes débuts d'avoir des stagiaires qui arrivaient de Suisse avec leurs règles et tout. Complètement désarçonné quand on faisait quand on parlait du stage, en fin de stage, c'était toujours, waouh, JS, là, je savais plus trop quoi penser, je comprenais plus rien. Parce qu'eux, ils arrivaient avec leurs règles, ils disaient, mais je peux pas faire ça, je sais pas pourquoi tu peux pas faire ça. Ben, parce que t'as telle règle. Non. Essaie-le, tu verras. Puis, non, moi, c'est toujours, essaie, puis tu verras bien ce qui va se passer. Et personne ne t'empêche de rien faire. Tu as le droit de faire ça. Tu as le droit de briser les règles. Tu as le droit de savoir, pas savoir les règles. Bon, quand tu les sais, c'est mieux, je crois. Mais, donc, cette espèce de droit-là, j'ai toujours prôné ça. Puis je pense que le design des cloisonnés vient de ça, mais vient aussi de pas avoir peur de mélanger les sphères. Puis moi, je suis un peu né de ça. De ma passion pour la musique électronique m'a amené à faire des heures et des heures de vidéos en direct dans des clubs. Et donc, j'ai forgé, des fois, j'ai fait des 8 heures en direct. Donc, c'est un peu comme si tu mets de la bonne musique que t'aimes, tu es devant ton fichier Illustrator ou autre logiciel de préférence en design, Et tu designes pendant des heures à bouger des formes, faire des compositions, les défaire, les refaire, faire des erreurs. Et passer 8 heures à faire ça, mais en mouvement. Alors, je plaçais des formes, je sais, puis là, j'ai inventé un tableau, j'en passais un autre. C'est très, très formateur. Alors, c'est sûr que dans les choses qui marchent, qui fonctionnent pas, j'ai des réflexes très rapides. Puis je sais quand j'ai fait un petit peu de charge de cours à l'UQAM, il m'est arrivé de, j'ai fait une charge de cours en motion design, notamment en design animé. Puis, une des premières choses que j'aurais mis dans le cours, j'aurais dit, je vais faire un atelier de vidéo en direct, donc VJing, comme on dit en bon français. Et je trouvais que c'était vraiment formateur, cette idée de partir à l'aventure. Puis, d'ailleurs, un de mes employés m'a souvent dit, JF, travailler chez Baya Studio, travailler avec toi, c'est comme une aventure. T'sais, on sent que tout est une aventure. Puis, je pense que c'est cette approche-là, autant au niveau du travail de l'entreprise, mais surtout au niveau de la création, de dire, ben, improviser, moi, je crois beaucoup, ben moi, je suis bon à l'improvisation, et puis souvent, je me rends compte que des idées, souvent, que je vais répondre à un truc, à une problématique du client, mais en direct. Et je vais avoir mes meilleures idées en direct sous la pression du direct. Alors que tu vas me mettre devant un bureau, à attendre, écoute, JS, je trouve une solution à ça, je vais tourner en rond, ça va être long, ça va être pénible. Je vais même des fois arriver, bon, je le fais pas avec mon équipe parce qu'on a des processus et tout, mais moi, si c'est juste de moi ou j'ai une rencontre ou j'ai un compte à rendre à quelqu'un, je vais souvent arriver puis je vais inventer une solution en direct. Je vais arriver avec une idée, une proposition en disant, hey, si on faisait ça. Et ça, je crois beaucoup à ça. Donc, je pense qu'il y a toute cette idée-là dans le design cloisonné. Puis, le fait de encourager l'expérimentation et de enlever les barrières entre les différentes sphères de l'animé, le statique, l'artistique, le corporatif, tous les opposés. Moi, j'adore les opposés, j'adore les contrastes et je ne juge pas. Alors, l'art, si tu veux, quand les gens parlent d'art, mais ce que moi j'appelle l'art, donc la beauté de la vie, la beauté des choses, est partout, on le sait. Alors, dans un rayon de soleil, dans une pub télé, bon, c'est pas le même genre, mais dans une vraie pièce d'art, l'art lui-même répond au code de l'art, mais le design répond au code du design, mais le magique, le beau, ce que moi j'appelle le vrai art, est partout, tu sais. Et donc, je crois beaucoup à cette idée d'aventure.
Parce que là, on est dans un monde, puis on en a parlé en pré-entrevue. Comme tu l'as dit, ton stagiaire arrive, puis lui a enseigné des processus, des méthodologies pour arriver à créer. Le monde du numérique est beaucoup amené à vouloir faire ça aussi parce qu'on veut essayer d'enlever les risques dans la gestion des projets. Donc, toi, quand tu parles de décloisonnement, c'est un peu ça aussi. On met les méthodologies de côté, puis on retombe dans un paradigme du design qui est beaucoup plus dans la créativité, là.
Absolument. Ben, tu sais, moi, je pense au début, quand j'ai vu le design un peu comme... au début, pour moi, le design avec un associé, c'était un peu comme un rock band. Si on vient de se fonder un groupe, là, puis on tripe, on fait des choses tripatives, comme disait Jacques Languérand, que j'adorais, puis on fait, c'est une aventure. Il y avait un côté performatif parce que moi, je venais beaucoup de la vidéo en direct et de la musique électronique. J'ai été DJ aussi à mes heures. J'ai quand même fait beaucoup de VJing, donc de la vidéo en direct, un peu aussi à travers le monde. Puis, j'aime beaucoup la performance. Et c'est peut-être un truc derrière, je m'ennuie un peu présentement, je n'en fais pas assez, mais j'aime cette notion de performance de... Tu sais, au début, le studio, ben moi, au début, quand j'avais pas d'enfant, j'ai commencé en design, mais tu sais, j'étais sur un horaire pas de bon sens, là. Naturellement, je me couchais à pas d'heure. Mes engagements clients n'étaient pas si intenses comme aujourd'hui. Donc, tu sais, me lever à pas d'heure, c'était pas grave. La magie se passait entre minuit et 3 heures du matin. Ouais. C'était ça, mon classique. Donc, j'ai développé ça. Maintenant, c'est plus du tout ça, tu sais. Mais j'ai gardé cette espèce d'esprit. Puis d'ailleurs, encore des fois, un peu moins qu'avant, au bureau, des fois, on va rester une soirée. Puis j'aime ces moments-là pour se focusser sur vraiment se concentrer sur des éléments créatifs. Et ça, j'aime ces moments-là où tu n'as pas de coup de téléphone, il n'y a pas de client, il n'y a pas personne qui peut t'appeler, qui peut te déranger, ou un collègue, peu importe. Tu es concentré à faire la création. Et pour moi, ce processus-là et ces moments-là sont vraiment magiques. Ce sont des choses de la vie que j'adore. Donc, je le fais aussi par plaisir de dire, ben, comme je pense que c'est une meilleure chose dans la vie, qu'on aime son métier, on aime les composantes de son métier.
Oui, puis j'ai l'impression, je ne sais pas si le milieu en a perdu, mais il me semble que le début des années 2000, il y avait une très large créativité, en tout cas dans le numérique. On essayait des choses, on allait plus loin. J'ai l'impression que le fonctionnel a pris un peu de l'avant. Je ne m'en plains pas parce que je suis un peu dans ce design de fonctionnel-là.
Oui, mais oui.
Dans l'UX. Mais j'ai l'impression qu'on a perdu même un peu la signification du mot design à travers tout ça, où on l'applique maintenant à toutes les sauces, le design thinking, le design de service. Appliqué par des gens qui sont souvent beaucoup plus dans un autre domaine et pour lequel le design n'a pas nécessairement cette valeur dont que tu décris de créativité, de laisser aller, de qui est ailleurs complètement.
Ben, d'ailleurs, c'est intéressant parce que, tu sais, je pense par exemple à mes collègues que j'aime beaucoup de chez Principal, qui font le studio de design montréalais, qui fait design à quand même assez artistique, mais plus fonctionnel, très typographique, hein, donc basé vraiment sur. Et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Puis, Brian avait été invité à présenter une expo sur le travail du design québécois au Art Directors Club du Canada et un des fondateurs de et partenaires de Principal, puis il était venu m'interviewer, puis je trouvais ça intéressant ce qu'il disait. Il disait, tu sais, JS, toi, on dirait que tu as un côté très, dans ton design ou ton approche, tu as un côté viscéral. Puis, je me disais, jamais dit ça, mais je me disais, c'est vrai, absolument. Tu sais, Et puis, on a le droit de se tromper, puis on va toujours se tromper. Il faut arrêter de se dire « tout peut être parfait, on voudrait là, ça, mais c'est une utopie, il n'y a rien qui est parfait. » Mais, tu sais, je mets un peu, j'aime ce sentiment de mettre mes tripes sur la table à chaque fois, de dire « OK, j'ai tout donné. Ah, finalement, avec le recul, bon, j'ai tout donné, mais bon, il manquait ça. » Tu sais, c'est pas parce que tu as tout donné que c'est garant de tout ça. Il y a plein d'autres facteurs dans la vie. Mais ça, j'aime bien ce côté-là. C'est comme une sorte de profession de foi, là, moi, je fais du design beaucoup par passion. C'est comme une mission, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est sûr que dans certains cas, on peut dire que dans certains projets corporatifs, ce sens de mission devient un petit peu, s'étiole un peu, puis on tombe dans quelque chose de plus pragmatique, qui est normal, qui est correct. Mais je pense que moi, j'ai besoin de trouver cet équilibre-là. Mais j'adore le design corporatif, puis j'adore, moi, tu sais, genre des fois, les gens, moi, j'ai pas eu l'occasion de faire dans ma vie des... ce qu'on appelle les fameux rapports corporatifs annuels, là, comme l'ONF en faisait et tout, de fin d'année, les rapports annuels de fin d'année. Et moi, j'ai toujours été, quand j'étais designer, jeune designer, j'étais fasciné par ça. Mon chemin ne m'a pas mené vers ça, mais étonnamment, tu sais, n'importe qui, je dirais, JS, lui, ça va l'embêter. Non, moi, j'adorerais voir des rapports annuels, j'adorerais voir un truc ennuyeux, là, de statistiques d'information, rendu de littérature plate. Ouais. Mais rendu bien schématisé, et finalement, c'est là que tu te rends compte, et c'est là qu'on peut parler d'UX, que les choses, quand elles sont bien organisées, bien schématisées, bien regroupées, elles retrouvent leur essence, qui est ce pourquoi elles existent.
Voilà. Ouais, j'ai l'impression que dans le marché actuel, il y a une difficulté à réconcilier les deux. Il y a un fort créneau en UX, en méthodologie, en fonctionnel, et il semble s'être éloigné de la possibilité de pouvoir sortir du carcan, sortir du moule, créer des choses qui sont différentes, qui sont ailleurs, tu sais.
Ouais, c'est vrai ça, puis je pense que je le sens aussi. En même temps, j'ai pas d'a priori très grand sur le UX. Je pense que de manière assez naturelle, dans l'historique du studio, on n'a pas été un studio de UX au départ, mais vu que, bon, à cause de... Ben, c'est un peu normal aujourd'hui, tu parles d'identité visuelle, tu peux pas parler d'une identité visuelle sans un site web. Avant, tu avais de l'imprimé, maintenant, tu en as moins, puis tu te rattaches au site web en te disant, bon, ça reste comme une des belles plateformes d'expression. Mm. Je dois dire que moi, je pense comme beaucoup de designers, j'ai comme une sorte de chemin de croix là, que je fais sur la disparition de l'imprimé, puis on en fait de moins en moins pour les clients. Puis bon, ben, tu sais, la papeterie, c'est quand même une utopie. Là. On rêve, tous les designers, jeunes designers, quand on présente des options, ils vont te faire une papeterie en premier. Mais pour le client, la papeterie, ça fera rien, ça n'a pas d'incidence tellement dans sa vie sur la majorité des clients. Donc, si tu veux, et donc, j'en arrive donc à dire que nous, on s'est mis à faire plus de web pour plein de raisons. Et là, ça ramène beaucoup plus le UX, tu vois. Puis et là, c'est intéressant de voir comment on navigue à travers ça, comment on collabore avec les bonnes personnes pour faire ça. Mais avec cette approche, en fait, je pense que c'est la meilleure des approches, c'est quand tu mélanges deux personnes comme ça. Tu mélanges quelqu'un qui est profondément UX et quelqu'un qui est profondément créatif et qui a un vrai dialogue entre les deux. Je pense que là, c'est là qu'il va avoir les meilleurs projets. Chacun va réagir soit à la folie ou aux restrictions de l'autre et il va produire quelque chose. Donc, je pense que ça pourrait être un bel atelier à proposer, ça, mélanger dans un prochaine conférence à Québec ou dans des ateliers parallèles, de créer des mélanges, de dire c'est on a besoin d'avoir un nombre d'inscriptions de designers égal à nombre de UX designers égal et de designers créatifs et qui font ils passent un après-midi, peut-être un atelier de départ qui est le matin, qui les mène à faire une proposition de quelque chose.
Jean-Sébastien, j'aimerais vraiment te remercier beaucoup pour cette belle conversation. C'était super intéressant.
Oh, ça, c'était une belle finale, hein? Merci.
Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à nos invités. Merci à mes collègues, Jérôme Colombin, Stéphane Ricoul, Thierry Weber et Jean-François Poulin pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Entre-temps, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dès jeudi soir et pour 4 soirs d'affilée pour Mon Carnet qui sera en direct du Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer au Québec, en Gaspésie. Entre-temps, je vous souhaite de passer une bonne semaine et surtout, portez-vous bien.